Ce sont donc Margot Delpierre et Thomas Langlin qui nous proposent ces chouettes podcasts. Vous pouvez retrouver tous leurs enregistrements sur leur site backstagelepodcast.com. Deuxième épisode de l'entretien consacré à Gérard Cybelle. Gérard Cybelle, producteur et dénicheur de talents. C'était au micro de Margot Delpierre sur un montage de Thomas Langlin. Un entretien enregistré en février 2019.
Vous vous êtes déjà trompé ?
Ah ben je vais vous dire, pas souvent. Non, pas souvent. Il y a eu des fins qui sont arrivées avant d'accéder aux marches du palais, si je puis dire, pour monter plus haut. Mais je dois bien le reconnaître que chaque fois, j'en ai pas été responsable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire ? Ben, il s'est passé surtout, pour beaucoup, beaucoup, une fatigue. Une fatigue énorme parce que c'est un sacerdoce que de monter sur scène et surtout d'aller dans l'humour. D'ailleurs, sacerdoce, c'est ce que dit d'ailleurs constamment un garçon comme Michel Bouquet. Il faut beaucoup d'humilité. Il faut vraiment vivre ça comme un sacerdoce. C'est pas possible. Ça demande des sacrifices énormes. Et au départ, effectivement, tout le monde pense pouvoir les donner. On s'aperçoit que c'est pas permis à tout le monde. Ce qu'on appelle aussi la résistance. Il faut vraiment être résistant, parce que c'est un métier vraiment très dur, c'est un métier, oui, hein, qu'on le veuille ou non. Et c'est un métier où le mépris est permanent.
Ouais. De la part de qui ?
De la part du public, de la part de l'environnement, de la part des amis, comédiens, sans arrêt. Mais je le dis souvent, mais ça, dès le départ, je m'en suis aperçu, ce qui m'a rendu infiniment lucide. Je dis, mais c'est vraiment un milieu qui est fait d'humiliation. Et c'est vrai que un artiste est toujours très sensible et je les admire parce que il faut surmonter tout ça, dépasser ces coups bas, ces humiliations, ce mépris qu'on peut afficher à votre égard. Il faut avoir une résistance à nul autre pareil. Je suis vraiment très 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 dur, vraiment. Mais il y en a beaucoup qui restent donc en panne, si je puis dire, parce que ils abandonnent au bout de 3, 4, 5 ans parce que ils sont fatigués, même s'ils ont beaucoup de talent. Ils se disent ça vient pas. Ben non, ça vient pas, mais faut attendre encore un peu, hein, et puis ce métier de longue patience, ben finalement, ben ils l'ont pas, ils préfèrent se retirer et faire autre chose. Et c'est bien malheureux parce que ainsi j'ai vu pas mal de talents et aujourd'hui à mon avis pourraient compter dans la galaxie de l'humour. Et puis de guerre lasse, ils ont enlevé leur dossard et puis ils ont dit allez, on sort du peloton.
Parce qu'il faut supporter des humiliations.
Ouais, c'est humiliant parce que on parlait tout à l'heure d'Elisabeth Buffer, venons-y. Moi, j'ai eu une claque énorme la concernant. Passé mon enthousiasme et tout, je l'ai modéré et puis tout de suite avec Elisabeth, je l'ai amené dans la boîte de production pour laquelle je travaillais et là, j'ai ramassé une claque phénoménale. On m'a dit mais qu'est-ce que tu fous avec cette vieille ? Parce que la vieille en question, elle avait 36 ans. Et quand on entend ça, vous dites, qu'est-ce que vous faites? Vous lâchez tout? Eh ben, plutôt que de tout lâcher, ça m'a redonné du cœur à l'ouvrage. Et je me suis dit, on va voir la vieille. On verra. Ouais, c'est ça, des humiliations, vous voyez. C'est terrible, hein. C'est terrible. Et moi-même, je dois les surmonter, hein. Ah ben vraiment, c'est pas facile parce que quand j'entends parler en mal d'un artiste auquel je vois un futur, là aussi, il n'y a pas que du côté de l'artiste, mais il y a du côté de celui qui vous parle et qu'il faut endosser les quolibets, les mépris et tout. Ah ouais, beaucoup plus qu'on l'imagine. Hein. Je vous parlais tout à l'heure d'un garçon comme Reda Sedeki. Tenez, revenons un instant. Ben, il n'a pas gagné encore, mais c'est vrai qu'il s'inscrit dans une mouvance proche de celle de François Morel. On peut dire qu'il existe, de par son côté philosophe de la scène, et parce qu'il a vraiment des choses à dire. Mais ça commençait, lui, c'était pire que tout. Ça commençait sur son nom, Reda Sedeki. Et quand vous parliez de Reda Sedeki, il y a des gens qui sont censés bien vous aimer. Il détournait la tête en disant, mais qu'est-ce que tu me parles d'un garçon qui vient d'un autre monde, voilà. C'était dur, hein.
Mais c'est très dur.
C'est très très dur. C'est très très dur. C'est un constat amer, mais bon, voilà.
Comment se fait-il que ce milieu-là soit si dur?
Parce que je pense que, et singulièrement depuis 6-7 ans, il y a tellement d'artistes et tout le monde veut y arriver à tout craint. Moi, je pense qu'aujourd'hui, 9 personnes qui montent sur scène, alors ça, je peux pas me faire que des amis en disant ça, ne rêvent que d'une chose, c'est la lumière des projecteurs. Mais c'est pas la lumière céleste. Et donc, on s'imagine qu'on peut y arriver rapidement, en jouant des coudes aussi, pour passer devant tout le monde, mais c'est pas du tout ça, hein, faire une carrière, c'en est loin. Hein. Faut avoir un fond, faut avoir une forme, faut amener un propos, et je pense que tout ça, on l'a senti, est venu du phénomène vers les années 2004-2005, phénomène de la télé-réalité, où voilà, il y avait qu'une chose qui comptait, ce n'était même pas la notoriété, c'était la célébrité, c'est plus pareil, hein. Et donc cette célébrité là, elle reste encore bien ancrée pour ceux qui montent sur scène, d'autant plus ceux qui font du seul en scène ou du one man show, parce que on part du postulat effectivement qu'il faut rien du tout, il faut pas de décor, hein, pour faire un one man show, il faut pas de partenaire, on est d'accord. On part avec sa valise, on prend le TGV, puis on va jouer à l'autre bout de la France. Donc économie minimale, et avec cette économie minimale, on pense que ça va suffire pour un jour devenir célèbre. Mais je vous jure, hein, c'est l'état d'esprit au moins de 9 personnes sur 10 qui montent sur scène aujourd'hui. Invraisemblable, invraisemblable. Si vous voyez tout ce qu'on voit, c'est pas possible.
Qu'est-ce que vous voyez ?
Ah, ce qu'on voit, vous pouvez pas vous imaginer, tenez. Parlons de la capitale, parlons de Paris, tiens, par exemple. Il y a encore 5 ans, 6 ans, il y avait à Paris, le dimanche, une scène ouverte. Une scène ouverte le soir qui accueillait 7 ou 8 artistes, le dimanche soir, au Trévise, et la scène ouverte, qui est une des plus anciennes de France d'ailleurs, qui s'appelle le Field, était l'unique scène. Aujourd'hui, c'est bien simple, à Paris, le dimanche, si on calcule bien, il y a 10 scènes ouvertes. Vous vous rendez compte? 10 scènes ouvertes. D'une, en quelques années, on est passé à 10. Et les 10 scènes ouvertes accueillent en général que des artistes différents. C'est vous dire le monde qu'il y a. C'est tout juste pas possible. C'est irrespirable. Et on se dit, mais au milieu de toute cette forêt, allez donc reconnaître le bon grain de l'ivraie. Ça, c'est voilà le changement d'époque. Il y a même à Paris, dans un endroit qui est rue Saint-Maur, un truc très agréable, hein, une salle ouverte qui accueille jusqu'à 2 scènes ouvertes par soirée le dimanche. Il y a une première partie, si je peux dire, qui dure 1h15, qui s'appelle la rigolade. Voilà, la rigolade, c'est une scène ouverte, la rigolade. Bang, elle se termine. Et puis, 1h30 après, il y en a une deuxième, qui est une nouvelle scène ouverte, au même endroit, dans le même lieu, qui s'appelle la blague du dimanche. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Vous vous rendez compte? Et puis, il y a des choses aussi incroyables que l'on constate. Je vais vous donner un autre exemple. Les cafés-théâtres se sont quand même pas mal démultipliés en province. Et un café-théâtre qui programme en province, programmait autrefois souvent 4 mois à l'avance. Voilà. 4 mois, et puis après, on reprogrammait 4 mois, puis on reprogrammait 4 mois. Aujourd'hui, on programme quasiment à l'année. C'est-à-dire que nous sommes en janvier, par exemple, eh bien, beaucoup de cafés-théâtres ont leur programmation arrêtée jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que le responsable de la salle a fait toute sa programmation à l'année. Hypothèse que ce responsable de salle voit une perle exceptionnelle 4 mois après avoir terminé sa programmation. Il peut pas programmer cette perle avant une autre année. C'est invraisemblable. Donc il y a blocage. Et ça montre quoi? Ça montre tout simplement que l'humour aujourd'hui est devenu une industrie et qu'il n'y a plus tellement de direction artistique parce que en plus tout le monde veut faire de l'humour. Je disais il y a 5-6 ans, mais j'étais pas loin d'une vérité. Je disais allez, on descend dans la rue, on interviewe 100 de personnes, les premières qu'on trouve. Et on demande à ces 100 personnes combien de personnes veulent monter sur scène. Eh ben le tiers, j'en suis sûr, vous disent « Ah ben oui, pourquoi pas ?» Ben oui. Qu'est-ce que vous voulez? Les sportifs aujourd'hui font leur one-man show? Les avocats aujourd'hui font leur one-man show? Non mais attends, on va où? Et c'est le constat d'une époque. Voilà. Les choses absolument incroyables auxquelles on assiste aujourd'hui.
Peut-être que c'est un métier aussi qui avant semblait réservé à certains et qui s'est démocratisé. C'est peut-être pas tout négatif.
Non, c'est pas tout. Non, je suis bien d'accord avec vous. C'est pas tout négatif, mais on parlait tout à l'heure de vocation. Bon, ben il y a plus guère de vocation. Il y a plus aussi le respect d'un certain métier. Et on le voit aujourd'hui. Reprenons parmi tous ceux qui montent sur scène. Prenons-en, mettons une trentaine. Et puis on va leur demander ce que c'est un coq à l'âne. Ils savent ce que c'est un coq à l'âne. Coq à l'âne, ça fait partie de l'humour. On va leur demander ce que c'est une calambre d'aine. Impossible de répondre. On va leur demander ce que c'est un trait. Impossible de répondre. On va leur demander ce que c'est l'esprit. C'est important, l'esprit dans l'humour. Incapable de répondre. On va leur demander ce qu'est une contrepèterie. Impossible de répondre. Donc on fait de l'humour aujourd'hui, un peu n'importe comment et avec n'importe quoi. Voilà, le problème il est là, le problème effectivement au milieu de cette forêt qui cache l'arbre, c'est effectivement de découvrir l'arbre. Mais je suis certain qu'il y en a encore beaucoup des arbres. ouais.
Pour vous ça s'apprend, c'est un vrai métier.
Ouais, ça s'apprend parce qu'il faut. Je pense que quand on fait ce que je fais, avec toute la modestie que cela doit impliquer, il faut quand même avoir une connaissance du passé, hein, sans remonter à Sophocle, du passé humoristique. Il faut avoir une bonne connaissance, ça c'est clair, du terrain actuel, une expertise de tout ce qui se fait, à gauche et à droite. Et puis, il faut avoir, troisièmement, une vision sur les goûts du public. Alors, vous allez me dire, ouais, mais bon, il y a un côté marketing dans votre démarche. Ben oui, indiscutablement, aujourd'hui, il y a tellement de monde que le talent ne suffit pas, il faut qu'il y ait à côté, parallèlement, une espèce de démarche marketing pour aller à la rencontre d'un public qui est en attente, oui, ça c'est clair.
Comment fait un artiste alors pour durer ?
Pour durer, il faut qu'il soit très, très créatif. Ah ça, voilà, je peux vous dire, les copies comiques n'existeraient pas s'il y avait un peu plus d'inventivité et s'il y avait un peu moins de confort pour certains artistes qui sont installés. Donc il faut être créatif, ouais, ça faut être créatif inlassablement, faut même quand on est installé, il faut travailler tous les jours, avoir beaucoup d'idées, étonner en permanence, ouais.
Alors parlons-en des copies comics, parce que vous faites référence à ces vidéos qui sont en fait des accusations de plagiat, où on voit en parallèle des comédiens américains qui semblent avoir beaucoup inspiré certains comédiens humoristes français. Vous en pensez quoi ? Ça vous a étonné quand ces révélations sont...
Ah moi ça m'a pas du tout étonné parce que pendant des années je m'occupais entre autres de la section française du festival Juste pour rire à Montréal et comment vous le dire quand certaines années quand j'y suis allé avec des artistes d'obédience française, j'ai vu ces artistes qui pendant toute la durée du festival s'enfermaient, certains avec leur manager, des après-midi entières, et évidemment ils regardaient des vidéos nord-américaines, et puis le soir dans un comedy club ils testaient ce qu'ils avaient vu sur les vidéos qui étaient des vidéos nord-américaines, donc j'étais pas tout à fait dupe, c'est une panne d'idées, une panne d'inspiration, et puis c'est vrai c'est toujours cette course effrénée. On veut tout et tout de suite. Écrire un spectacle, ça demande sacrément du temps. Et en écrire un deuxième, peut-être encore plus qu'un premier. Et on n'a plus le temps aujourd'hui. On n'a plus le temps. Alors, il y a, Dieu merci, encore quelques artistes, et même parmi des très jeunes, qui, on le sent, ont ce courage-là, qui ne rentrent pas dans le système, qui ont compris en disant halte là. Et nous, c'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut être un véritable humoriste parce qu'on sent qu'on a quelque chose en nous qui pourrait marquer une petite pierre à l'édifice dans la galaxie de l'humour. Ouais, il y a presque un renouveau. Et ce renouveau, on le sent aujourd'hui auprès de garçons et de filles qui enfin délaissent la vanne à tout crin et qui écrivent, qui savent raconter des petites histoires sur 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes. Il y a une espèce de renouveau avec parfois des écritures vraiment qui sont étonnantes. Bon, ils sont pas encore connus du grand public, mais ça perce. Oui, ils sont là. Et ça me fait dire que tout n'est pas fichu, hein, loin s'en faut, hein. Mais on traverse encore, et singulièrement depuis 6 ans, une période très tourmentée, faite de tsunamis au niveau humoristique comme c'est pas possible.
Vous pensiez que de toute façon ça allait venir, ce genre de scandale ? Ça ne pouvait qu'éclater ?
Ah bah oui, ça pouvait qu'éclater, parce que pour aller chercher la lumière des projecteurs et devenir célèbre, il n'y avait qu'une chose qui comptait, c'est d'arriver le plus vite possible. Donc fatalement, comment faire ? Comment faire ? On se réfère à des grands anciens et si possible des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. On pensait au départ que ça allait être moins voyant, mais on s'est pas méfié du phénomène Internet. Quand on voit effectivement quelques nouveaux artistes qui arrivent là, c'est un réconfort, vraiment, vraiment. Et je pense qu'il y en aura d'autres qui feront des carrières, mais ce qui s'appelle des vraies carrières, hein, pas des coups pendant 2, 3 ou 4 ans, hein, et surtout pas des coups Internet, parce qu'aujourd'hui, dans tout ce qu'on voit d'aberrant, si je puis dire, c'est aussi le phénomène vidéo. On a des dizaines d'artistes qui sur scène aujourd'hui existent que parce qu'ils ont posté une vidéo qui a bien fonctionné. Hein.
Oui, parce que l'humour c'est plus seulement sur scène aujourd'hui. C'est aussi sur Internet.
Ah oui, et alors quand vous avez une série de vidéos qui marchent bien sur Internet, évidemment tout de suite on souhaite passer à la scène, et il y a combien de youtubeuses là qui marchent bien, par exemple des filles comme Marie Saint-Filtre, et ça y est, elles arrivent, elles montent sur scène, pam pam pam, et là le résultat est ce qu'il est, hein, effectivement, il y a loin de l'image à la scène, hein. Mais néanmoins, ce sont des artistes qui attirent beaucoup de monde, hein, faut pas l'oublier. Hein. Et puis il y a ces artistes aussi qui vivaient sans grande notoriété, et puis qui du jour au lendemain se sont mis à faire des vidéos. J'ai une grande admiration pour elle, on peut y aller, hein, parce que je l'ai connue bien avant qu'elle fasse des vidéos, et je la trouvais déjà formidable. C'est par exemple Labajon, Anne-Sophie Labajon, qui, par exemple, avec une vidéo, pour n'en citer qu'une, hein, Trésor public, qui a fait 17 millions de vues, aujourd'hui vient de remplir son premier zénith à Pau. Et ça a boosté sa carrière d'une façon phénoménale. Elle n'aurait pas eu ce secours de vidéos, ben elle restait peut-être pas dans l'ombre, non, parce qu'elle était gentiment connue, mais elle serait restée devant des salles de 80, 100 personnes, et là, c'est nous soudainement les zéniths grâce au renfort de la vidéo. Alors elle, Labajon, elle le mérite parce que elle avait le feu sacré, elle a le feu sacré et tout ça, voilà, mais il y en a combien qui aujourd'hui n'ont pas le feu sacré, et grâce à des vidéos qui sont postées, qui marchent bien, bonbons sur scène, et qui d'un seul coup, paf, attirent 500, 700, 800 personnes. C'est important, oui, c'est important, c'est un booster de carrière.